BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
C'est l'émission d'un monde qui change. Bienvenue à tous, BFM Bourse jusqu'à 18h et en fil rouge, Antoine Larigauderie. Rebonsoir Antoine.
Rebonsoir Guillaume.
Votre mot du soir.
Tentative toujours, on essaie de terminer dans le vert. Le CAC 40 plus 0,04%, 8120 points. On a même une très nette surperformance de la techno, encore une fois. L'Euronext Tech Leaders qui prend 0,54% et on arrive à résister à une tendance plutôt négative du côté de Wall Street, et notamment le Nasdaq qui perd 0,6%, moins 0,17% pour le Dow Jones. Les taux d'intérêt restent tendus, même si on reste sur un petit climat d'apaisement à court terme. 3,73 pour l'OAT 10 ans, 4,61 pour la dette américaine. Le pétrole lui est remonté, 101$ pour le brut léger américain, 107 pour le Brent.
L'un des facteurs majeurs du jour, c'est la baisse de l'euro quand même face au dollar. Aujourd'hui, on est sous le dollar 16, 1,1595, avec la Commission européenne qui dégrade ses prévisions de croissance. On va y venir dans un instant. Et oui, il y a des signaux là sur l'Europe un peu plus inquiétants d'un point de vue macroéconomique. Et sur le front géopolitique, c'est toujours l'impasse en Iran. Le guide suprême iranien, d'après Reuters, vient d'émettre une directive stipulant que jamais l'uranium enrichi ne quittera le territoire iranien. Jamais. Voilà. Alors qu'un peu plus tôt, et depuis hier, même des rumeurs indiquaient qu'au contraire, les Iraniens étaient prêts à laisser s'exporter une partie de l'uranium enrichi. Donc on est toujours dans l'impasse qui explique sans doute toujours les tâtonnements en bourse. Du côté des valeurs, en tout cas, Nvidia a publié ses résultats. Le titre avait ouvert en hausse d'un 1,5%, mais là, il perd 1,5%. Voilà, on évolue vraiment autour de l'équilibre avec une grande marge d'évolution. Pas mal de coups intraday autour d'Nvidia. Donc globalement, la publication est gentiment accueillie, on va le dire comme ça, par les marchés. Très belle publication quand même, sur laquelle on va revenir. Et de son côté, SpaceX a déposé sa son dossier d'introduction en bourse. Et pendant que SpaceX dépose son dossier d'introduction en bourse, OpenAI fait savoir, par des informations de presse en tout cas, que son intro, à lui, aurait lieu à l'automne. Eh oui, il ne faudrait pas que les investisseurs mettent tout dans SpaceX. Et donc, OpenAI aussi laisse filtrer les informations au moment où SpaceX prépare son intro de façon plus officielle. Intéressant, voilà, histoire de se rappeler quand même au bon souvenir des investisseurs. Ne mettez pas tout dans SpaceX. C'est un peu le message subliminal d'OpenAI. Et puis, du côté de l'Europe, donc on le disait, des indicateurs un peu décevant, dont on va parler aussi au cœur de l'actualité, parce que BFM Bourse est sur toutes les batailles de marché, mais BFM Business au cœur de ces grands indicateurs, et donc la dégradation de la prévision de croissance par Bruxelles. Bruxelles dégrade ses prévisions après une croissance attendue cette année à 1,2%, finalement Bruxelles ne l'attend plus qu'à 0,9%. Et pour la France, particulièrement un point d'intention, puisque Bruxelles ne tape plus que sur 0,8% de croissance cette année. Le FMI lui vise plutôt 0,7%. Le FMI avertit au passage que la réponse en France au choc énergétique doit rester limité et ciblé compte tenu des risques budgétaires croissants. À ce sujet, d'ailleurs, Sébastien Lecornu donne une conférence en cette fin de journée, une conférence de presse pour annoncer de nouvelles aides, en particulier aux travailleurs. La France, en tout cas, et là c'est une bonne nouvelle, reste en tête en Europe pour ce qui concerne l'attractivité des investissements étrangers. Une performance qui intervient dans un contexte de baisse générale du nombre de projets. Avec nous à 18h, dans moins d'une heure, Marc Lhermitte, associé chez EY, il en parlera, il répondra aux questions d'Edwige Chevrillon. En tout cas donc, la France reste leader en matière d'attractivité des investissements étrangers en Europe. C'est la seule bonne nouvelle du jour sur le front macroéconomique. Du côté des entreprises, Air France et Airbus sont condamnés en appel dans l'affaire du crash du Rio Paris. C'était en 2009. Les deux entreprises, Air France et Airbus, sont accusées d'homicides involontaires et écopent d'une amende de 225 000 euros chacune, la peine maximale pour une personne morale. Airbus se pourvoit en cassation. Plus de détails là aussi avec Edwige dans moins d'une heure. D'ici là, on est à vos côtés. C'est BFM Bourse. On joue dans votre camp. Bienvenue à tous.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Nos experts du club, ce soir, ils viennent de nous rejoindre. Olivier Maltès, directeur des investissements d'Altéis by Yomoni. Bonsoir Olivier.
Bienvenue. Bonsoir Guillaume.
Et Romain Aumont. Bonsoir Romain.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue également, macroéconomiste et stratégiste pour Natixis IM. On a des marchés européens qui tâtonnent, Wall Street en petite baisse. On va parler d'Nvidia dans un instant et de SpaceX, mais la croissance européenne pose véritablement question là. On a une commission européenne qui abaisse sa prévision de croissance pour cette année. Elle attendait 1,2% de croissance, elle n'attend plus que 0,9%. Et les PMI ont été publiés tout à l'heure, ils se contractent de plus en plus au mois de mai en France. En France, c'est quand même majeur là. C'est Gilles Mouet qui nous disait tout à l'heure, il se passe quelque chose de négatif en France. En France, le PMI des services se retrouve à un plus bas depuis 2020, depuis la crise Covid. Là, au mois de mai, il y a un point d'attention particulier manifestement qui est en train d'émerger sur la France, Olivier.
C'est certainement l'impact de la hausse des prix des carburants globalement, la hausse, la crainte aussi de l'inflation de la part des consommateurs, et donc on consomme moins de services globalement. Donc ça se revoit, ça se ressent dans les indicateurs prévisionnels. On a déjà eu un chiffre de croissance au premier trimestre au niveau français qui était nul, 0% globalement, donc en dessous de la moyenne moyenne européenne. Donc on voit ça et on voit le Premier ministre est en train, je crois, de faire ses annonces, mais on voit qu'il a jusqu'à présent fait un soutien relativement modéré, parce qu'il est aussi bloqué côté budget.
Et oui.
Vous l'avez rappelé, Guillaume, on est aussi alerté sur le côté attention aux dépenses budgétaires et au soutien qu'on pourrait avoir.
Le FMI alerte la France, attention à vos aides, le gouvernement français, n'allez pas trop loin parce que vous avez un souci budgétaire. Annonce, déclaration du FMI aujourd'hui. Donc voilà.
Donc c'est assez logique, entre guillemets, j'ai envie de dire, sur la baisse globalement des services. Les ménages ont une confiance relativement faible, hein, globalement, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, mais en tout cas, impactent leurs dépenses, réajustent leur budget. Il y a des dépenses qu'on est obligé de faire lorsqu'on travaille, qu'on doit prendre sa voiture. Voilà. Donc même s'il y a des aides de l'État, elles sont relativement faibles, globalement, faute de budget. Mmh. Et puis aussi, je pense que le gouvernement se positionne dans une situation que ça pourrait durer. Si on aide depuis le début et si on aide depuis le premier jour, globalement, et que ça dure très longtemps, à quel moment on arrête potentiellement d'aider lorsqu'on ne peut plus ? Il faut aussi certainement réserver un peu ses cartouches pour pouvoir aider. Mais c'est vrai que c'est un signal relativement difficile pour la croissance globalement, et peut-être qu'on en parlera, mais on attend aussi potentiellement une hausse des taux de la BCE prochainement, qui ne devrait pas non plus aider globalement la croissance européenne, y compris la croissance française. Donc tout ça est plutôt moribond, plutôt pas folichon.
Et alors Gilles Mouek tout à l'heure nous disait la dégradation du PMI français à ce rythme, c'est digne d'une économie en récession. Généralement quand un PMI se dégrade à ce point, c'est qu'on est en train de basculer en récession. Alors c'est pas une prévision, mais c'est peut-être un signal qu'on voit l'activité française, et par ailleurs Bruxelles qui abaisse quand même assez drastiquement de 25% sa prévision de croissance pour cette année en zone euro. Romain, comment vous regardez ça ?
Il faut prendre quand même les données d'enquête auprès des directeurs d'achat, donc les enquêtes PMI, avec une pointe de sel, je dirais, dans la mesure où il y a très peu de pouvoir explicatif entre ce niveau des PMI des services avec la croissance française en réalité. Donc maintenant, dont acte, il est clair qu'on est sur de la donnée de sentiment, de la donnée d'enquête, on n'est pas encore sur de la donnée économique réelle. On sait que ce choc énergétique va sans doute détériorer la demande interne en Europe, notamment en France, mais ça ne va pas être le seul pays qui va être impacté, comme la Commission européenne nous le signale. Et c'est surtout finalement la demande interne des économies qui est touchée, que ce soit le consommateur, que ce soit les entreprises, qui font face finalement déjà à des coûts de financement qui sont beaucoup plus élevés qu'ils ne l'étaient encore au début de l'année. Et donc finalement, la question, c'est de savoir, est-ce que la Banque Centrale Européenne, dans ce contexte, peut se donner les marges de manœuvre et augmenter ses taux, dans la mesure où on est déjà en train de faire face finalement à une contraction de la demande interne. Et la logique qui viendrait à dire qu'il y a un risque de diffusion de cette inflation, on va dire volatile, énergétique, puis alimentaire, dans finalement l'inflation la plus visqueuse, ça c'est une interrogation que l'on a, et il serait quand même de bon ton pour la Banque Centrale Européenne finalement de rester un petit peu pragmatique et pas trop dogmatique vis-à-vis de cette trajectoire qu'emprunte à l'heure actuelle l'économie européenne.
Oui, mais est-ce que vous êtes rassuré du fait que les taux obligataires souverains se tendent quand même depuis un certain temps, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ? Du coup, peut-être que les banquiers centraux n'auront pas besoin d'agir puisque le marché fait le boulot à leur place. Est-ce que de ce point de vue, on peut se dire « Ah, ben finalement, tant mieux que les taux se tendent parce que ça évitera aux banquiers centraux de tendre les leurs de taux ?»
Exactement. C'est ce qu'on se dit, c'est que finalement, le sale boulot a été réalisé par le marché obligataire, et donc la banque centrale ou les banques centrales ne vont pas avoir besoin d'avoir une posture trop restrictive. Mmh. Pour nous, notre scénario encore tient sur un statu quo qui serait quand même un petit peu restrictif dans la prise de parole, mais qui ne serait pas restrictif dans la décision en termes de taux d'intérêt.
Oui, est-ce que le fait que les banques centrales, notamment la BCE, c'est vrai, effectivement, laisse filtrer l'idée que des hausses de taux sont possibles, est-ce que l'objectif, c'est finalement justement de faire comme le FMI vis-à-vis de la France aujourd'hui, à savoir dissuader les États d'aller trop loin dans leurs aides ? Est-ce qu'il y a un peu de ça dans ce discours un peu moins accommodant des banquiers centraux, qui ne les engagent pas à relever leurs taux, mais juste émettre l'hypothèse pour que les États, dans cette phase, dans cette période où ils annoncent les uns après les autres des aides aux particuliers, aux consommateurs, voire parfois, évidemment, au-delà, au secteur industriel, etc., au secteur d'activités différents, divers et variés, ben voilà, les dissuader d'aller trop loin dans les aides en distillant des messages de possibles hausses de taux.
Ça peut être ça, mais le message quand même devient de plus en plus fort côté BCE et côté directeur de la Banque Centrale, avec l'idée aussi qu'il y a eu un basculement sur, on est maintenant plutôt au niveau de la Banque Centrale visiblement dans un scénario négatif, là où ils étaient toujours dans un scénario potentiellement d'impact relativement faible et de fin et de libération du détroit. Ils sont plutôt en train de basculer sur le scénario où ça durerait longtemps et potentiellement il y aurait un risque au niveau de l'inflation. Je crois que les marchés estiment à environ 90% la probabilité de hausse sur la prochaine réunion hein, de 25 points de base au niveau des taux directeurs.
Ah, et, en Europe, ouais.
Et en Europe, et c'est vrai que le mandat de la Banque Centrale Européenne est de contrôler l'inflation. Christine Lagarde a été relativement ferme hein, sur ce point-là. Ils ont besoin aussi de réaffirmer le fait qu'ils ne laisseront pas forcément filer comme ils l'avaient fait en 2022 sur le choc de l'inflation. Ils ont besoin de réaffirmer ça, même si elle l'a dit que ça pourrait être que temporaire, globalement. J'ai bien peur que malheureusement, ils restent sur ce mandat-là. Alors, c'est sûr qu'ils ont attention hein, en disant plus les gouvernements vont effectivement aider, ils vont essayer de permettre à ce que l'inflation potentiellement se diffuse, hein, en aidant globalement les consommateurs et en aidant les particuliers à absorber complètement ce choc, plus ils auront besoin de le faire et ils auront besoin de le faire de manière importante. Mais je pense que là, ils sont vraiment en train de préparer à la fois le marché sur ce basculement avec des signaux de plus en plus inquiétants sur leur analyse du fait que ça va durer, que ça dure et qu'il faut se préparer à potentiellement une inflation.
Oui, oui. Alors, est-ce que ça va durer? Ça dépendra. Ou bien sûr, l'inflation va continuer de se diffuser et ça durera surtout selon l'évolution de ce conflit là-bas, au Moyen-Orient, dans le détroit d'Ormuz. Alors, d'après Bloomberg, l'Iran discuterait en ce moment avec le sultanat d'Oman pour mettre en place un péage permanent sur le contrôle maritime dans le détroit d'Ormuz. Voilà, un péage permanent, il y aurait des discussions entre les Iraniens et les Omanais contre le droit international, hein, parce que c'est pas dans le droit international, ça va se faire payer les détroits. Mais voilà, on aurait des discussions en cours. En tout cas, on voit qu'hier, le marché croyait dans une résolution rapide du conflit, et puis aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Reuters nous dit que le guide suprême iranien s'oppose à toute sortie de l'uranium enrichi du territoire iranien, alors qu'hier, on pensait l'inverse. C'est très compliqué. Tous les chemins mènent à l'impasse. On en est encore là, Romain, et on est toujours dans l'idée que ça pourrait durer, s'éterniser. Si tel était le cas, si ce conflit durait, au-delà de l'été, quoi. Disons l'été, et pourquoi pas jusqu'en septembre, qui sait. Voilà. Dans ce cas, quel serait l'impact sur les économies, sur l'inflation? Parce que là, on parle d'inflation au stade actuel, après 3 mois de conflit. Mais si on devait passer l'été encore avec ce conflit, on serait à 5-6 mois. Dans ce cas-là, quels seraient les impacts potentiels?
Donc, on est en effet suspendu au développement de la zone qu'on ne contrôle pas. Donc, nous, on partait du scénario que le choc serait temporaire parce qu'on allait faire face à des belligérants qui étaient quand même assez rationnels et pragmatiques. Bon, le fait est que si on part du scénario de risque qui consiste à dire qu'on a un détroit qui reste bloqué et une pression sur les matières premières énergétiques telle qu'on l'observe jusqu'après l'été, eh bien là, en effet, on a un vrai choc énergétique qui commencerait finalement à se diffuser dans l'inflation sous-jacente. Normalement, un choc énergétique prend aux alentours de 2 trimestres pour pouvoir se diffuser dans l'inflation sous-jacente. Auquel cas, on aurait un vrai problème parce qu'on aurait une demande, notamment en Europe, qui serait totalement dégradée, une demande interne, que ce soit encore une fois la consommation des ménages ou l'investissement des entreprises. Mais on aurait finalement un impact qui serait potentiellement positif également du point de vue de l'économie américaine, qui est beaucoup moins sensible à ce qui se passe du point de vue du détroit d'Ormuz. Oui. On a finalement un impact hétérogène entre les zones géographiques. On sait que l'Asie est principalement dépendante des sorties de ce détroit en termes de matières premières énergétiques. On sait que finalement, les Américains, l'économie américaine est totalement immunisée vis-à-vis de ce choc. On a un impact de prix parce que les marchés sont mondiaux. Néanmoins, on sait qu'on a d'autres vecteurs à l'heure actuelle sur lesquels on reviendra qui sont en train de pousser la demande interne aux États-Unis, que ce soit de la consommation des ménages ou l'investissement. Et finalement, on a la zone euro qui, elle, est totalement dépendante énergétiquement. Certes, pas du détroit, mais néanmoins, l'impact pris sur les matières premières énergétiques va finalement dégrader le scénario macroéconomique. Et encore une fois, la vraie question dont on parlait tout à l'heure, l'aide des États vis-à-vis des économies, on n'est pas du tout sur une ouverture de robinet budgétaire telle qu'on l'a observé en 2022. On a des États qui ont bien pris conscience que les aides doivent être ciblées, transitoires, et que globalement, on ne va pas répéter les erreurs de 2022. À l'heure actuelle, on est de l'ordre de 0,1 point de pourcentage de la zone euro en soutien budgétaire pour défendre surtout la partie offre, donc les entreprises. Et donc finalement, on se retrouve face à une situation où il est quand même très peu probable de voir l'amplitude du choc, on va dire headline, sur l'inflation totale se diffuser en 1 pour 1 sur l'inflation sous-jacente en zone euro. Ce qui devrait permettre aux banquiers centraux, encore une fois, d'attendre peut-être après juin pour commencer à se mettre dans une posture de restriction monétaire.
On va parler de la tech dans un instant, bien sûr, de SpaceX, d'Nvidia qui a publié ses résultats. Le titre Nvidia recule légèrement d'1,9%. Je dis légèrement parce que ça aurait pu être bien pire ou bien mieux. À l'échelle d'Nvidia, moins 1,9, c'est pas une très forte variation. Juste avant, restons sur les taux rapidement. Est-ce que Kevin Warsh fait partie, non pas des solutions, mais du problème? Est-ce que l'arrivée de Kevin Warsh à la tête de la Fed est un facteur aggravant sur les taux? Est-ce que c'est aussi cela qui tend les marchés, qui braque un peu les investisseurs, qui explique la hausse du 30 ans américain et des taux longs un peu partout dans le monde, Olivier?
Il y a deux éléments dans l'arrivée de Kevin Warsh, à mon avis, qui sont importants. Il y a, et comme vous l'avez rappelé aussi précédemment, il y a cette idée vraiment sur laquelle il veut réduire le bilan de la banque centrale. Et c'est vrai que pouvoir acheter des obligations longues, ça peut permettre aussi de contenir les taux, globalement, notamment si on décide de baisser les taux directeurs. Et donc, s'il veut réduire le bilan de la banque centrale, évidemment, on aura moins ce soutien-là pour le contrôle plus ou moins efficace, mais en tout cas, une tentative de contrôle sur les taux longs. Et il y a surtout la dissension globale qu'on voit à l'intérieur de la Fed et qu'on a vu aussi, y compris au Sénat, lorsqu'il a été voté, enfin lorsqu'il a été élu et qu'il a été intronisé, sur lequel on a rarement vu, et on n'a même jamais vu au Sénat, un tel écart aussi proche, en fait, sur le vote oui et le vote non pour l'installation de Kevin Warsh. Et on voit aussi cette dissension au niveau de la Banque centrale qui est très importante au niveau de la Banque centrale américaine. Et il va même, lorsqu'il va arriver, il va avoir besoin de faire un consensus aussi à l'intérieur de la Banque centrale pour s'installer. Donc il va certainement devoir prendre son temps et avoir un discours plutôt dans la ligne, en tout cas c'est notre analyse, dans la ligne globalement de la Banque Centrale Américaine qui commence à préparer un scénario un peu moins dovish. Alors ils vont pas monter leur taux immédiatement, mais en tout cas être beaucoup moins dans les anticipations de baisse des taux. Alors on n'en voit plus aujourd'hui dans le marché, mais il y a quand même toujours cette idée qu'il va pouvoir baisser les taux. Donc je pense qu'il y a à la fois ce côté bilan qui inquiète un peu, il y a ce côté aussi où il a envie d'avoir moins d'ouverture sur la communication au niveau de la Fed et vraiment de communiquer vraiment plutôt sur les bilans et de permettre des discussions plus intenses qui n'apparaîtraient pas dans les minutes. Tout ça inquiète et peut inquiéter un petit peu globalement, mais c'est vraiment l'impact bilan, et ça là-dessus il a jamais bougé sur le côté il veut réduire le bilan de la Banque Centrale Américaine, ce qui
on continue d'en parler bien sûr dans un instant. Juste un mot sur cette valeur qui a pris en 10 ans. Vous avez une minute pour trouver de quelle valeur il s'agit. C'est la devinette du soir, là. Ce titre, en 10 ans, a pris 20 062%. Voilà. 20 062% de hausse en 10 ans. Vous avez une minute. Nous, on laisse nos invités réfléchir. Vous tous qui nous suivez à la radio et à la télé, vous pouvez bien sûr vous aussi réfléchir, nous apporter vos réponses en commentaire. Vous avez pour cela une minute sur notre Félix BFM Bourse. Le temps pour moi de vous donner la tendance sur les marchés à quoi? 17 minutes de la clôture, parce qu'on accélère vers cette clôture, on entre dans la dernière ligne droite de la séance. Le CAC est en hausse de 0,03%. Air Liquide gagne 1,8%, Euronext gagne 1,8% aussi. Aujourd'hui, pas de jaloux. Pernod Ricard, ArcelorMittal aussi sont bien orientés. Alors Antoine, vous le disiez, c'est rare de voir ArcelorMittal et Total Energy progresser sur la même séance. C'est le cas aujourd'hui, Antoine. On a les deux valeurs, Arcelor et Total, en forme.
Oui, absolument, parce que généralement, ArcelorMittal est la première victime des prix du pétrole qui montent. Et Total en est le premier bénéficiaire. Deux titres montent effectivement en même temps sur la même séance, ce qui est assez rare.
Oui, c'est le cas aujourd'hui. En baisse, Airbus, moins 3,1%, condamné en appel. Vous savez, dans le drame du Rio Paris de 2009, Airbus avec Air France KLM, Airbus et Lanterne Rouge à moins 3%, donc du CAC 40. FH de son côté perd 2,9%. On est au bout de la minute, messieurs. Vous aviez une minute, pas une seconde de plus, pour trouver. Je suis une valeur cotée quelque part dans le monde. Et en 10 ans, j'ai pris 20 062%. Qui suis-je? Romain?
Peut-être Nvidia?
Olivier?
Je ne sais pas du tout.
Menteur. Nvidia, bon, c'est Romain qui a gagné. Voilà. 1-0, bravo Romain. Du coup, vous êtes sanctionné puisque vous avez gagné, c'est logique. Et c'est vous qui allez devoir parler en premier d'Nvidia. La publication d'Nvidia, pas mal, exceptionnel même. Mais on s'habitue à l'exceptionnel. Enfin, on prend mauvaise habitude quand même. On est habitué à manger dans 5 étoiles en permanence. 3 étoiles plutôt, c'est plus simple. Nvidia perd 1,8% là, à Wall Street, alors que la publication est exceptionnelle. Comment vous regardez cette réaction des marchés?
Bon, c'est un mouvement assez classique d'achat de la rumeur, vente de la nouvelle. On est sur une consolidation tout à fait saine du titre après les bonnes nouvelles, comme vous venez de le signaler. Bon, Nvidia, il n'y a pas de secret. À l'heure actuelle, Nvidia permet, du point de vue de l'infrastructure, d'être à la frontière de la recherche concernant l'intelligence artificielle, est en train de se placer maintenant sur la nouvelle révolution de l'intelligence artificielle qui est l'intelligence artificielle physique. Oui. Et donc, on a globalement une demande des hyperscalers qui ne cesse de s'accroître. En 2026, on va avoir encore plus de 650 milliards d'investissements dans les CAPEX pour l'intelligence artificielle. Et qui y a-t-il ? Qui sont les grands acteurs en face ? Vous avez Nvidia et vous avez, dans une moindre mesure, mais quelque chose dont on parle beaucoup, Samsung Electronics en Corée, mm-hmm. qui bénéficie extrêmement fortement de cette demande absolument exponentielle.
Nvidia annonce des bénéfices sur un an en hausse de 211%. Les bénéfices d'Nvidia, plus 211%. Le titre recule d'1,8%, Olivier. Marché fait la fine bouche ou quelque part il a raison?
Non, mais c'est presque stable pour Nvidia. Oui. Nvidia le recule. Ils ont des chiffres qui sont quand même très impressionnants, et ça trimestre après trimestre ils battent encore le consensus. Alors ils n'ont pas battu en termes de prévision, je crois le consensus le plus optimiste, enfin la prévision la plus optimiste, mais globalement c'est quand même très très fort, et ils arrivent à conserver toujours leur marge. Et on peut même dire qu'ils sont plutôt prudents en termes de consensus parce qu'ils mettent rien sur la Chine globalement, et peut-être que dans les discussions entre Donald Trump et la Chine, potentiellement, il y aurait peut-être une ouverture ou quelque chose. Donc, ils sont relativement prudents aussi dans leur projection. Non, mais je pense que ça devient une grosse valeur, en fait, Nvidia, et c'est plus du tout comme on a pu le voir, on peut le voir sur les semi-conducteurs ou sur la mémoire ou sur des choses un peu plus spécifiques. Ça devient un peu la grosse base, le gros bloc de l'IA, et qui commence à moins faire rêver, entre guillemets, dans le sens ça devient tellement gros, tellement énorme, tellement stable qu'on va peut-être avoir moins de volatilité sur le titre et un peu moins de prévision. Ce qui est important, c'est de voir à quel point ils continuent d'investir, à quel point ils continuent d'avoir beaucoup de cash qu'ils vont redistribuer aux actionnaires de manière importante suite à la demande. C'est trimestre après trimestre. Chaque trimestre, on attend le moment où ils décevront, ils ne déçoivent pas. Et là, on a des prises de bénéfices un petit peu, mais il n'y a rien d'anormal et il n'y a rien d'étonnant. C'est vraiment la valeur presque sûre, entre guillemets, dans l'écosystème IA de plus en plus.
Effectivement. Et alors, est-ce que quand SpaceX s'introduira en bourse, des valeurs comme Nvidia, les 7 magnifiques, vont subir des ventes massives ? Parce qu'il va bien falloir trouver de l'argent pour aller investir dans SpaceX. SpaceX, hier soir, a déposé son dossier d'introduction devant le gendarme des marchés financiers américains. Ça y est, on est lancé maintenant pour sans doute une intro vers la mi-juin. On n'est pas très surpris, on s'oriente d'après le FT vers 75 milliards de dollars de levée de fonds, ce qui en ferait la plus grosse introduction de ce point de vue, mais pas en valorisation. Saudi s'était introduite sur des niveaux de valorisation plus élevés. D'où viendra l'argent, quoi ? Est-ce qu'on doit craindre une baisse des autres valeurs tech quand SpaceX sera introduit en bourse ? Est-ce qu'il faudra bien aller trouver l'argent quelque part ? Est-ce que ceux qui ont des plus-values sur la tech vendront, prendront des bénéfices pour réintroduire sur SpaceX leur argent ?
Là, pour le coup, les investisseurs qui veulent un petit peu se faire peur et qui veulent espérer des gains relativement importants, vous avez rappelé la performance d'Nvidia sur 10 ans, on a l'impression que le gros, non pas de la performance, mais le gros du potentiel, si on cherche des performances à trois chiffres globalement sur Nvidia, on se dit que c'est tellement gros maintenant que ça devient vraiment difficile. Là, on est vraiment sur quelque chose, sur un projet qui paraît complètement insensé, qui paraît complètement fou, et sur lesquels le potentiel, si jamais ça fonctionne, tout ce qui est calcul galactique, tout ce qui est, on voit bien la connexion des différents métiers qu'il peut y avoir aujourd'hui à l'intérieur de SpaceX, là pour le coup, si jamais ça fonctionne, c'est hautement spéculatif, mais si jamais ça fonctionne, le potentiel paraît énorme. Donc, on peut s'attendre à avoir une partie des investisseurs, effectivement, qui vont aller rechercher dans SpaceX cet espoir de gain vraiment immense, avec le risque associé. Hein, il y a, je crois, 20 pages de risque dans ce qui a été présenté à la SEC pour l'introduction. Il y a énormément de risques face à cette introduction en bourse. Mais on voit trois métiers différents, trois entreprises différentes à l'intérieur de SpaceX, certaines qui génèrent beaucoup de cash, d'autres qui en perdent parce qu'ils investissent, il y a un investissement qui est colossal.
Mais au global, au premier trimestre, ce sont des pertes, hein, SpaceX, oui. Pas de bénéfices, au contraire, des pertes de 4 millions de dollars. C'est-à-dire celui qui va chercher des bénéfices par action, au début, là, en l'état actuel des choses, ce sera des bénéfices négatifs par action. Il faut quand même l'avoir en tête.
Oui, parce qu'il y a un gros investissement, notamment sur l'IA, évidemment. Il y a sur le côté spatial aussi un gros investissement. Il y a Starlink, quand même, qui est une machine à cash relativement impressionnante. Il y a tous ces projets, quand même, qui ont une cohérence, qui ont vraiment du sens.
C'est comme une mayonnaise, j'ai l'impression. Soit ça prend pas, et auquel cas, ciao, quoi. Mais si ça prend, ça peut le faire.
C'est exactement ce qui est présenté aux investisseurs, je pense. Hein. C'est un gros pari, c'est quelque chose de particulièrement risqué. Mais
tous les ingrédients s'allient bien, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, on a nos auditeurs. Max nous a écrit sur le Félix BFM Bourse. Lui, il ne croit pas du tout à l'intérêt de SpaceX. Il nous dit « SpaceX perd de l'argent, ce titre va attirer tous les pigeons. Grâce à SpaceX, le pigeon apprendra à voler dans l'espace. » Voilà ce que nous dit cet auditeur. Romain, vous portez un regard là-dessus sur SpaceX, l'introduction, les premiers détails qui ont filtré dans le dossier de déposé à la SEC?
Alors nous, on considère qu'il y a une suffisante profondeur de marché à l'heure actuelle, surtout dans le secteur technologique américain, pour pouvoir absorber une IPO comme SpaceX le fait. Ça reste quand même une levée assez marginale. Il faut rappeler que la capitalisation boursière des 500 premières entreprises américaines, c'est quand même 70 000 milliards de dollars. Et donc, on a grosso modo en face une épargne aussi des ménages américains qui, financière, est de l'ordre de 150 000 milliards de dollars. Les montants font peur, mais quand on les rapporte aux agrégats qui sont à notre disposition, ça reste quelque chose de marginal. Ensuite, concernant le fait qu'on a une entreprise qui, en effet, a des bénéfices négatifs par action à l'heure actuelle, pas oublier que le marché, il est quand même sur une base d'anticipation de cash flow futur surtout, et que Amazon a mis beaucoup de temps pour générer du cash, et c'est devenu l'entreprise que l'on connaît à l'heure actuelle. Donc, il faut nécessairement dans le marché à un moment des spéculateurs qui apportent du capital aux entreprises.
Il en faut
tout de même. Donc ensuite,
il faut toujours des pionniers. Hein. Oui, bien sûr, les premiers de cordée là pour le coup. Mais, oui.
Absolument. Et donc de ce point de vue-là, ça montre finalement qu'on a un écosystème technologique aux États-Unis qui continue à se porter très bien. Et pour nous, ça valide l'idée que quand vous avez des entreprises qui investissent, généralement elles sont le leader futur de leur marché si ce marché finalement arrive à maturité.
Oui, mais c'est vraiment, SpaceX sera aussi à lui tout seul un ETF sur la personne d'Elon Musk, quoi. Enfin, Elon Musk détiendra à lui tout seul 79% des droits de vote. Grâce à des actions offrant des super pouvoirs, chacune des actions que détiendra Elon Musk sera associée à 10 votes. Et il sera quasiment du coup irrévocable. Les autres actionnaires ne pourront pas remercier Elon Musk le débarquer de la tête de SpaceX. Ce sera impossible. Voilà, je sais pas, c'est business as usual ou c'est quand même un ovni ça?
On a un problème de gouvernance, comme on l'entendait tout à l'heure dans l'émission. Mais au-delà de cela, c'est la personnalité d'Elon Musk, c'est le rapport des investisseurs à Tesla qui a été corrigé lorsque Elon Musk a pris certaines positions aux États-Unis.
Ouais. C'est un ETF sur Elon Musk, SpaceX, Olivier?
Je pense que oui, de toute façon, c'est très très lié à la stratégie et au personnage d'Elon Musk. Je pense que la SEC apprécie particulièrement Elon Musk. Hein. Il a eu quand même pas mal de sujets sur Twitter et compagnie sur les moments où il faisait ses déclarations par rapport aussi au moment où il voulait, on se souvient sur le Bitcoin notamment, lorsque Tesla à un moment avait de la trésorerie complètement au Bitcoin sur lequel il faisait des déclarations pour aussi faire potentiellement monter les valorisations de ses entreprises. Alors est-ce que c'est un génie ou est-ce que c'est un fou ou est-ce que ce sont les deux? Souvent les génies sont aussi fous.
Les fous sont importants dans l'histoire. Le fou du roi est aussi son conseiller. Voilà, les fous sont parfois les conseillers.
Ouais. Mais par contre, on verra si la SEC valide quand même tout le dossier en l'état, notamment sur la gouvernance. Je pense que le fait qu'il soit complètement actionnaire, c'est plutôt des choses qu'on voit sur des petites entreprises et plutôt sur le non-coté que sur des entreprises qui seraient du coup, pour le coup, cotées. Néanmoins, oui, c'est évidemment un gros pari sur Elon Musk et un risque certainement sur la personne. L'entreprise est capable de se développer sans Elon Musk, c'est aussi une idée. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait prendre le relais s'il lui arrivait quelque chose? Enfin, c'est aussi ça, hein, quand on a un groupe aussi important, il faut avoir des plans de suite.
Et il y aura des petits Elon Musk partout dans le marché, parce que ce groupe SpaceX sera intégré au Nasdaq 100, à l'indice Nasdaq 100, seulement après 15 jours de cotation. C'est exceptionnel. Normalement, il faut au moins un an pour intégrer le Nasdaq 100. Là, il y a un truc qui a changé, les règles, je ne sais pas. Il pourra, ce titre SpaceX, s'intégrer le Nasdaq 100 au bout de 15 jours seulement. Ça veut dire que ce groupe SpaceX sera présent dans plein d'ETF quasiment dès son introduction en bourse. On aura les petits Elon Musk partout dans nos ETF, quoi. Même si on n'a pas choisi à titre individuel de cibler SpaceX dans nos allocations.
Alors, on peut s'attendre à avoir un certain nombre d'ETF qui présenteront une indexation Nasdaq sans SpaceX ou sans un certain nombre de valeurs vraiment très importantes. Ça, on connaît l'industrie, on connaît l'efficacité de l'industrie ETF. Si jamais il y a une vraie demande et une vraie crainte de la part des investisseurs de manière à trouver des solutions pour pouvoir investir sur le Nasdaq 100, hors les Elon grosses Musk, capitalisations ou hors SpaceX, ça on peut s'y attendre si effectivement ça pose un sujet. Après, il faut regarder quel poids représentera aussi SpaceX à l'intérieur du Nasdaq. Ce qui est vrai, c'est que ce sera coté très très vite. C'est souvent un reproche qu'on fait globalement à la gestion ETF ou à la gestion indicielle, c'est de ne pas participer aux IPO. Donc là, ce sera pas directement sur l'IPO, mais ce sera très proche. Étant donné l'importance de l'entreprise, le fait qu'elle l'intègre rapidement à l'indice, vu les montants de capitalisation dont on parle, vu l'importance globalement des montants en jeu, ça paraît aussi normal et assez logique que ça fasse partie de gros indices relativement rapidement, puisque ça aura un poids, que ce soit sur la tech, que ce soit sur les calculs, que ce soit sur les capacités de calcul aussi, hein, pour le reste de... on pense à Claude, on pense à Anthropique, enfin pour le reste de l'industrie, puisqu'il y a des deals qui sont en train de se faire sur des récupérations de capacités de calcul non utilisées forcément par SpaceX ou par Grok, notamment récupérées par Anthropique. Donc on voit, hein, globalement toute l'industrie de l'intelligence artificielle est en train aussi de s'organiser pour mutualiser potentiellement les puissances de calcul en fonction des moments où ils en ont besoin.
C'est une planète B là, c'est une infrastructure B là que vous êtes en train de nous décrire, qui est en train de se constituer effectivement. Et face à SpaceX, OpenAI, Anthropique aussi doivent s'introduire cette année, 3 gigas introduction en bourse. Alors c'est au moment où SpaceX déposait son dossier auprès de la SEC hier soir qu'on a eu de nouvelles infos sur l'introduction en bourse à venir d'OpenAI. Comme par hasard hier soir. Peut-être une façon pour OpenAI de laisser filtrer les infos pour que les investisseurs aient bien en tête qu'il n'y aura pas que SpaceX, quoi. Ne mettez pas tout votre argent sur SpaceX, on arrive aussi, on sera bientôt là. D'après les dernières infos de presse, OpenAI s'introduirait à l'automne prochain. Voilà. Il y a un duel entre hommes d'ailleurs, entre Elon Musk et Sam Altman là-dessus. OpenAI, Anthropique, SpaceX, comment vous regardez cette addition, la première addition exponentielle de l'histoire, là, pour le coup, Romain?
On est sur un petit duel d'hubris ou d'orgueil entre les deux fondateurs.
Vous croyez?
Maintenant, encore une fois, c'est tout à fait naturel qu'après financement sur du non-coté, on aille sur du côté pour aller chercher une profondeur capitalistique et pour pouvoir continuer finalement à financer l'investissement dans la recherche et le développement qui est absolument essentiel à l'heure actuelle dans cette révolution technologique. Et encore une fois, il y a deux zones géographiques qui effectuent cet investissement. On a d'un côté les États-Unis et puis on a finalement une sorte de duopole qui est en train de se formaliser avec la Chine. Malheureusement, en Europe, on a quelques leaders technologiques qui performent d'ailleurs très bien sur la côte. Oui. Maintenant, il faudrait peut-être un petit peu plus d'investissement et de vision stratégique pour pouvoir produire l'innovation de demain.
C'est notre question du jour aujourd'hui à nos auditeurs et téléspectateurs sur X et LinkedIn. On leur demande à choisir pour la suite dans la tech, vous privilégiez quoi? Plutôt les 7 magnifiques ou nos acteurs européens des semi-conducteurs qui, pour le coup, cette année, n'ont pas à rougir. Ils cartonnent en bourse depuis le début de l'année. ST Microelectronics gagne 150% là, depuis 1er janvier. Soitec, 550%. C'est complètement délirant. Alors voilà, est-ce que maintenant les temps changent? Et finalement, ce sont nos acteurs européens des semi-conducteurs qu'il faut privilégier, d'après vous, plutôt que les 7 magnifiques. Est-ce que vous avez là-dessus un regard, Olivier?
Moi, je serais quand même plutôt toujours 7 magnifiques, notamment parce que les semi-conducteurs sont aussi beaucoup utilisés en Europe dans l'industrie automobile. Et donc, il y a quand même un lien entre ces deux industries. Et on sait que l'automobile, c'est quand même compliqué aussi. Et donc, du coup, moi, je serais plutôt toujours un peu 7 magnifiques. Il se murmure, hein, d'ailleurs, pour terminer sur OpenAI et SpaceX, que le procès intenté contre OpenAI avait pour but de retarder potentiellement, puisque...
Donc, l'introduction en bourse.
Voilà, de retarder l'introduction en bourse.
Pour que SpaceX s'introduise en premier.
Pour que SpaceX s'introduise en premier.
Ça sera largement gagné. Oui.
Parce que si jamais l'introduction était compliquée, enfin, si ça avait commencé par OpenAI avec une introduction un petit peu compliquée, ça aurait été d'autant plus compliqué pour SpaceX. Il vaut mieux certainement passer le premier. Et donc, c'était certainement stratégiquement une tentative pour arriver vraiment premier en termes de calendrier. Bon, le procès a duré peu de temps, hein, finalement. Mais en tout cas, ça permet a priori à SpaceX de passer le premier.
Romain, en 15 secondes, plutôt les 7 magnifiques, ou enfin on revient sur les semi-conducteurs européens. Les investisseurs reviennent déjà depuis le 1er janvier, mais est-ce qu'il faut continuer sur l'Europe?
Nous, on reste aussi, on a un petit biais technologique américain, on cherche de la croissance bénéficiaire des entreprises, et à l'heure actuelle, c'est finalement les entreprises du Nasdaq qui sont capables de les délivrer et toujours surprendre le consensus.
On est ensemble, dans un instant la clôture, on va la vivre bien sûr, mais d'abord on entre, Romain, Olivier, dans la Data Room. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Les data vous donnent la bonne échelle. Olivier Romain, êtes-vous prêt à nous livrer les bonnes data?
Prêt.
Vous avez chacun une minute, on démarre avec vous. Olivier, votre chiffre ce soir, 1 sur 5. De quoi s'agit-il, 1 sur 5?
C'est 1 dollar sur 5 de course alimentaire aujourd'hui aux États-Unis qui est effectué chez Walmart, puisque Walmart a publié ses résultats là, aujourd'hui, tout à l'heure, il y a quelques heures.
Le titre est à 8%.
Et ça représente 800 millions de dollars par jour environ de dépenses en course alimentaire aux États-Unis.
1 dollar sur 5 de course alimentaire, c'est chez Walmart.
C'est chez Walmart. Quand on regarde le deuxième et le troisième, en fait, quand on fait la somme des deux, hein, Kroger et Cosi Cisco, globalement, qui sont deuxième et troisième, on n'arrive pas à la part de marché de Walmart. Donc, c'est vraiment très important. Et même sur les investissements en ligne, les dépenses en ligne de consommation alimentaire, ils sont largement devant Amazon. Donc, on voit que Walmart, c'est vraiment là où on fait ses courses alimentaires. Et ce qui est intéressant, du coup, quand on analyse les résultats, c'est de voir les différences d'appréciation. Et ce qui est intéressant là, c'est que le titre est pénalisé parce qu'ils ont pratiquement supporté intégralement les hausses de coûts de carburant dans les prix. Et c'est une discussion qu'on peut avoir, une réflexion sur le passage sur l'inflation, c'est qu'aujourd'hui, c'est plutôt les marges des entreprises, du coup, qui prennent cette surcharge-là plutôt que le consommateur. Et donc, sur le côté inflation et qui passe de second rang, pour l'instant, ça reste au niveau des entreprises et ça ne s'impacte pas complètement aux consommateurs.
Oui. Walmart a accepté de prendre sur ses marges, de rogner ses marges pour garder ses consommateurs fidèles en quelque sorte malgré les hausses de prix. Voilà,
c'est en Walmart, ça que la publication est intéressante aussi pour une vision un peu macro.
Moins 7% là, du coup, Walmart cet après-midi. À vous Romain, votre data ce soir, au cœur de cette data room, 50% c'est votre chiffre ce soir.
D'ailleurs, c'est une transition parfaite grâce à Walmart. Donc 50%, qu'est-ce que c'est ? C'est la part des articles dans le panier de consommation de l'indice des prix à la consommation européen, dont les variations annuelles sont encore inférieures à la cible de la BCE. On a eu les publications finales de l'inflation en zone euro hier par Eurostat. Et finalement, on a encore 50% de ce panier de consommation européen qui est inférieur à la cible. Donc, c'est le verre à moitié plein. Vous pouvez me dire le verre à moitié vide, c'est qu'il y a finalement 50% qui est déjà au-dessus. Maintenant, il faut le mettre en perspective par rapport à la crise inflationniste de 2022. En 2022, la Banque Centrale Européenne a commencé à agir dans son resserrement monétaire lorsqu'on avait déjà 71% de ces articles qui avaient une variation supérieure à la cible. Et oui. La question, c'est de savoir maintenant, on a deux points d'inflation depuis le début du conflit. À l'heure actuelle, cette proportion reste stable. Ça veut dire que nous, dans notre scénario, on continue de maintenir le fait qu'on ne va pas avoir de diffusion prix de consommation.
Et vous êtes plutôt du camp de ceux qui, en juin, pensaient qu'il n'y aura peut-être pas de hausse de taux finalement de la BCE. Hein. Vous nous disiez tout à l'heure, là, les choses entrent en cohérence, effectivement. Merci beaucoup, Romain, de nous avoir accompagnés. C'était votre première dans BFM, non, votre deuxième, votre première.
Absolument, votre première. C'est ça. Merci pour l'invitation.
Merci à vous. J'espère qu'il y aura une deuxième première, du coup. Vous êtes le bienvenu quand vous souhaitez. Romain Aumont pour Natixis ICM et Olivier Maltès. Bon, vous les comptez, Olivier, ça fait. C'est votre combientième, là
hein. Quand on l'aime, on ne compte pas.
C'est ça, exactement. Directeur des investissements d'Altéis Biomoney. Dans un instant, la clôture et vous le retrouverez bien sûr pour vivre avec lui cette clôture, Antoine Larigauderie. A tout de suite sur BFM Business.
BFM Bourse, la clôture de la Bourse de Paris.
Avec Antoine. Rebonsoir Antoine.
Rebonsoir Guillaume.
Comment termine-t-on aujourd'hui ?
Avec une nette inflexion à la baisse. Et ça s'est vraiment passé dans les toutes dernières minutes pendant le fixing, même moins 0,39%. On passe à 8086 points. Nette surperformance de l'Euronext Tech Leader. Ça, on en a beaucoup parlé, ça reste vrai. Plus 0,38%. Mais l'essentiel des indices européens termine dans le rouge. À noter les plus fortes baisses du jour à Paris, moins 4,27 pour Airbus à 165,96 €. Eiffage, moins 3,5 à 122,60 €. Mais alors, sur le SBF 120, de très fortes baisses, notamment pour Elior, moins 27%, 2,06 €. Pour Nanobiotics, ceci, moins 9,3% à 33,52 €. De Richebourg, dans le sillage d'Elior, perd 7,2% à 9,42 €. Cela dit, il y a eu de bien meilleures performances, et notamment dans la tech, on en parlait, Soitec, encore une séance très impressionnante, plus 5,4% à 166,60 €. Et puis, nos opérateurs satellites, Eutelsat, brille, plus 22,5% à 3,83 €. SES plus 6,32 € à 8,83 €. La plus forte hausse du CAC 40, elle est pour Euronext qui gagne 1,8% à 150,20 €. Les volumes d'échange étaient, classiques, à 3,8 milliards.
Romain Dobry nous rejoint pour Bourse Direct. Bonsoir Romain, quel signal envoie cette clôture ?
Bonsoir Guillaume. Pas beaucoup de signaux forts. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas de pression baissière. On préserve un niveau médian à 8082 sur l'indice CAC 40 cash d'une grande zone 7856 et dont la borne haute est 8357. On est vraiment sans tendance sur l'indice parisien depuis le début du mois d'avril. C'est plutôt positif dans le sens où on préserve cette médiane, dans le sens où il n'y a pas de pression baissière et puis dans le sens aussi où on a des portefeuilles relativement couverts. Les opérateurs sont plutôt prudents. C'est moins le cas aux États-Unis sur lequel on est plutôt topish. On a un petit peu de pression par moment. On n'accélère pas à la baisse. Ceux qui ont bien acheté n'ont pas envie de vendre, mais on voit qu'on n'a pas de momentum pour aller plus loin malgré d'excellentes publications d'NVIDIA pour l'instant. On a atteint en plus des cibles graphiques sur ces indices américains.
On y revient en détail dans un instant, bien sûr, vous accompagner jusqu'à 18h et nos experts vont vous livrer des pistes d'investissement pour vous tous, fidèles de BFM Bourse. On essaie d'être les plus concrets et rendre vos portefeuilles les plus agiles possibles. Grâce à eux, ils viennent de s'installer et ils vont partager avec vous, là, tout de suite, dans les prochaines minutes, leurs convictions. C'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Avec, ils viennent de nous rejoindre ce soir, Damien Charlet pour Mandarine Gestion. Bonsoir Damien.
Bonsoir Guillaume.
Ravi de vous retrouver, vous êtes prêts à affronter nos auditeurs, téléspectateurs, essayer de leur apporter un maximum de conviction pour la suite?
Toujours prêt, et toujours convaincu.
Ah oui, et les experts d'Eleva aussi, bienvenue sur le plateau de BFM Business.
Fabrice,
j'ai oublié votre prénom, Fabrice. Oui. Ah, je l'avais au bout de la...
Voilà. J'ai croisé trop de gens.
Fabrice Thévenot, il est là.
Bonsoir
alors,
à tous.
Du coup, je vais me rattraper. Voilà. Je vous donne la parole en premier. Vous m'en voulez pas, Damien?
Pas du tout.
Ah voilà, parce que là, c'était pas élégant. Voilà. On peut démarrer avec vous, Fabrice, et sur le thème que vous voulez. Il y en a plein, les thèmes, là, sur le marché. Alors attendez, je vous donne le choix. Il y a Stellantis, donc l'annonce de son plan stratégique, quand même sanctionné. Ce titre Stellantis, ce soir, termine en très, très net repli. Un peu plus de 5%. C'est quand même lourd. On a, bien sûr, l'espace, investir dans l'espace, mais est-ce qu'on peut le faire d'ores et déjà sans attendre l'introduction de SpaceX? Voilà, vous avez le choix entre ces deux grandes thématiques du jour, vous choisissez laquelle?
Sans hésiter l'espace, parce que moi je regarde très peu l'automobile en ce moment, parce que c'est quand même un secteur, on en parlait avec Damien avant d'entrer, quand même très difficile, et c'est pas nécessairement des opérateurs européens ou américains sur lesquels on aura envie de parier, donc je préfère largement regarder les choses un peu plus joyeuses. L'espace, c'est un domaine qui est très intéressant. Alors évidemment, il y a l'introduction en bourse de SpaceX dont vous parliez, qui on va pousser tout le monde à regarder un peu plus en détail ce segment que les gens connaissent peu.
Ouais, voire le prendre plus au sérieux, parce que ces dernières années, c'était pas toujours très pris au sérieux. L'espace en bourse, voilà. Là, ça devient une vraie thématique.
Voilà, c'est une thématique très importante. Ce qu'on voit, ça a été porté en fait par les investissements d'Elon Musk qui font qu'aujourd'hui, le coût pour envoyer un kilo dans l'espace s'est écroulé depuis un certain nombre d'années. Ça va encore baisser énormément en 2026-2027. Donc, il y a son réseau Starlink qui devient très utile pour la partie télécom. Donc c'est un segment qui devient très intéressant aussi parce que les États-Unis et la Chine ont beaucoup de projets, notamment de retourner sur la Lune, de reposer le pied sur la Lune. Ça paraît étonnant, mais c'est difficile d'y retourner. En fait, il y a pas personne ne possède la Lune, donc on a envie d'y aller assez rapidement pour poser son drapeau. Donc il y a un peu une course de vitesse aujourd'hui. Et ça touche beaucoup de sociétés. SpaceX, c'est celle qui est la plus visible, la plus connue. Mais vous avez beaucoup de concurrents, des sociétés comme Intuitive Machines, Rocket Lab, MDA, etc., qui sont attrayantes, qui ont commencé à rebondir depuis plusieurs mois, mais qui offrent encore du potentiel.
D'accord, on en a cité quelques-unes rapidement. Intuitive Machine, Rocket Lab.
Ah oui, alors Intuitive Machine, c'est celle qu'on préfère. Alors le cours a déjà fait à peu près x3 en quelques mois, mais en fait, ils font toutes les machines qui vont vous permettre de vous déplacer sur la Lune. Donc en fait, l'idée qu'a l'Amérique aujourd'hui, c'est d'en mettre le maximum, d'avoir la présence la plus large possible sur la Lune, parce que, comme je le disais, il n'y a pas de propriété aujourd'hui. Celui qui possède, c'est celui qui s'est installé et qui a mis des petits drapeaux, des machines, etc.
Ça marche comme ça?
Ça marche vraiment comme ça. Il n'y a pas de
droit international sur la Lune. Hein, oui.
Non, c'est pas encore réparti la possession. Il y a aussi des notions d'ego, de fierté, etc. Donc là, l'Amérique met vraiment les bouchées doubles pour y retourner. Vous savez que c'est aussi une des grandes passions des milliardaires américains. Donc on voit bien Elon Musk, mais Jeff Bezos a aussi beaucoup de projets. Il a commencé un peu plus tard, mais il rattrape à grande vitesse avec beaucoup de projets qui font aussi que les lanceurs européens que vous avez mentionnés tout à l'heure retrouvent des couleurs, de l'attrait, les Telsat, SES, etc. Donc c'est vraiment un secteur, un segment en ébullition qui part de très bas, parce qu'il n'y avait plus grand-chose qui se faisait dans l'espace. Mmh. Et donc il y a un potentiel de croissance fort pour les années à venir.
Ben voilà, très intéressant effectivement cette thématique spatiale qu'on apprendra à aborder plus régulièrement aussi dans BFM Bourse. Vous êtes un peu plus Damien, dans le concret de maintenant, là tout de suite, le terre à terre, les véhicules, les transporteurs, enfin Stellantis, voilà. Constructeur automobile, prochain mot. J'avais oublié le prénom de Fabrice et j'avais oublié Stellantis, c'est un constructeur, tout simplement. Voilà. Et Stellantis a présenté son plan stratégique des prochaines années. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce plan stratégique? D'abord qu'il est mal accueilli en bourse, le titre Stellantis perd plus de 5% en clôture. Stellantis va bel et bien concentrer son effort sur 4 marques, ils en ont 14, 4 marques, qui ces 4 marques recevront 70% des investissements, des partenariats avec Tata Motors pour améliorer les chaînes d'approvisionnement, et en Europe, à l'inverse, la capacité des usines européennes qui devrait être réduite de 800 000 unités. Ça correspondrait manifestement à une baisse de capacité en Europe de production de 20%.
Oui, alors Stellantis, c'est à peu près normal que la journée d'aujourd'hui soit mal accueillie, parce que bon, d'abord ils donnent des objectifs à 2030, donc ce qui paraît relativement loin. Alors des objectifs qui sur les États-Unis sont de marge opérationnelle de 8-10%, donc ça à la limite c'est pas trop mal. En revanche sur les objectifs européens, on est sur des niveaux de marge qui sont encore très faibles, même à 2030. On est à parle de 3-5%, et dans une société qui vient de subir, j'allais dire, deux années très très difficiles avec des pertes, avec la destruction de trésorerie très importante, et une destruction de trésorerie qui pourrait durer encore quelques années. Donc, on a une situation financière qui est difficile, on a des grosses restructurations, avec une, honnêtement, savoir... Alors, on n'a pas de retour encore sur ce qu'ils ont expliqué sur le pourquoi du comment, pourquoi ils allaient... se concentrer sur quatre marques. Qu'est-ce qu'ils vont faire des autres? C'est un peu le point d'interrogation. Donc, on verra demain si on a des retours. Mais pas de visibilité, situation financière difficile. Donc, si on devait choisir un constructeur automobile...
Ce serait Stellantis.
Ce serait pas Stellantis.
Ce serait pas Stellantis.
Bah, il vaut mieux aller sur quelque chose comme Volkswagen, qui génère du cash flow, qui a une situation qui reste compliquée, parce que ça reste de l'automobile européenne. Mais ils ont du cash flow, ils ont de la trésorerie, ils ont les moyens d'investir, et ils avancent avec une visibilité qui est quand même bien meilleure que celle de Stellantis, avec une valo qui est en plus pratiquement inférieure à celle de Stellantis, parce que Stellantis, il y avait un peu de spéculation dessus à l'approche de cette journée.
Comment vous regardez ça? Parce que Stellantis multiplie les partenariats en plus et les assume, hein, vraiment avec des groupes chinois. Dongfeng, le chinois, va mettre un pied dans l'usine de Stellantis de Rennes et participer à la construction de véhicules sur place à Rennes, les Chinois, voilà. C'est ça l'avenir en fait des constructeurs européens, c'est la Chine en quelque sorte.
Je pense qu'il faut être pragmatique. Ouais. S'ils ont besoin d'un partenaire et que c'est un partenaire chinois qui peut leur apporter de la technologie qui leur permet d'avoir...
C'est mieux que rien.
Qui permet de développer des véhicules beaucoup plus rapidement, ce qui est un des objectifs principaux de la plupart des constructeurs européens qui aujourd'hui développent leurs véhicules en 4 ans, alors que les Chinois le font en 2 ans. Oui, il faut être pragmatique.
C'est plutôt là-bas en Chine que dans cet univers de la construction de voitures, etc., il faut désormais tourner son regard. Il y a des valeurs pour ça, Fabrice, que vous regardez avec vos équipes?
Alors nous, on aime bien CATL. CATL, c'est un fabricant de batteries, donc c'est pas pile un constructeur chinois. Le grand constructeur chinois, c'est BYD. Je pense que CATL est vraiment intéressant parce que c'est le leader dans les batteries. La batterie, c'est l'élément clé de la voiture. Et ils vont lancer une nouvelle génération de batteries au sodium, qui ont beaucoup d'avantages, qui en termes de coûts, en termes de recharge, qui savent gérer face au froid, et c'est les premiers à lancer ça. Donc on arrive aujourd'hui dans une période très favorable pour les véhicules électriques, où on le voit, il y a des temps de recharge qui deviennent très courts, des autonomies qui augmentent. Donc c'est vrai que boursièrement, on a plutôt envie d'aller regarder de ce côté-là. Donc je vais être à 100% d'accord avec Damien.
Le CAC 40 ce soir termine à -0,4. Et maintenant, messieurs, on ouvre le musée des horreurs, les fortes baisses du jour. On va démarrer 45 secondes sur Ubisoft. Ce titre Ubisoft qui a publié perd 2,3% en clôture. Encore 2,3% de repli.
Il perd que 2,3%, parce qu'il était quand même à -16% à peu près en milieu d'après-midi.
Ouais.
Bah, Ubisoft, en fait, il publie des résultats qui sont très mauvais, une fois de plus. Alors qu'ils sont à peu près conforme à ce qu'ils avaient déjà annoncé au mois de janvier. Donc, il n'y a pas de surprise majeure. Mais la difficulté, c'est que là aussi, on a une société qui détruit énormément de cash. Ils ont, sur l'exercice 2026, parce que là, eux, ils publient un exercice complet puisqu'ils sont décalés à, mars. Ils ont détruit pas loin de 500 millions d'euros. Donc, c'est très compliqué parce que ils ont une trésorerie qui est en train de passer négative. Ils avaient eu une injection de liquidité qui avait été faite par Tencent. Aujourd'hui, ils sont en train de manger cette liquidité à toute vitesse et ils annoncent que l'année prochaine, ils consommeront encore du cash. Donc,
et le plan de réorganisation mettra beaucoup de temps à porter ses fruits. Ce plan de réorganisation très très profond là qu'ils sont en train de mener, mais c'est pas pour tout de suite les bénéfices de tout ça.
Oui, le plan de réorganisation, déjà ça fait déjà au moins 2 ans que Ubisoft déçoit sur ses nouveaux titres et sur les commandes. Donc ils ont déjà lancé des restructurations en arrêtant le développement de certains produits, mais malgré tout, pour l'instant, comme diraient les Américains, la société, elle, elle saigne sa trésorerie. Donc, et comme ça va encore être le cas cette année, c'est difficile de parier sur Ubisoft.
Moins 2% ce soir, mais je vous le disais, c'est le musée des Evreurs. Dans un musée, il y a plusieurs vitrines, il y a plusieurs objets à observer. Pire, Elior, moins 27%. Ils ont abaissé leurs prévisions, mais pour des raisons qui nous semblent comme ça, de prime abord conjoncturelles, le titre est vraiment châtié. Moins 27 ce soir, est-ce que c'est trop sévère?
Non, en fait, la problématique d'Elior, c'est que c'était une société qui était en redressement, qui était en train de récupérer un peu de confiance qu'elle avait perdue ces dernières années. Et aujourd'hui, ils déçoivent assez fortement, c'est-à-dire que la croissance, enfin, ils font un gros avertissement, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires est inférieur, la rentabilité est inférieure. Ils réduisent leur prévision pour 2026. Et quand on est une société où péniblement on est, leur histoire c'était de dire que leur marge allait s'améliorer parce que les contrats qu'ils avaient sur la France étaient en train de sortir et que c'était des contrats à très faible marge et qu'ils allaient les remplacer par des contrats à plus forte marge. Et décevoir maintenant, alors que l'histoire semblait bien avancée, c'est quand même une très mauvaise nouvelle. Donc on peut se poser la question là aussi de ce qui se passe sur les contrats d'Elior, sachant qu'ils sont quand même à 50% en France, oui. Ce qui n'est pas forcément un avantage non plus. Bah oui, grosse perte de confiance.
Oui, et le fait d'être si exposé à la France, pas terrible en effet. On voit que les indices PMI sur la France se dégradent particulièrement. Ils se dégradent partout en Europe en mai, mais particulièrement en France. Le PMI service de la France au mois de mai est à un plus bas depuis 2020. On revient à l'année Covid hein, quand même. C'est dire la déprime quand même des directeurs d'achat. Bon, dans le sillage d'Elior, il y a De Richbourg qui en est actionnaire, qui recule aussi ce soir d'un peu plus de 7%. Et puis, à la hausse quand même, on va terminer sur une bonne note, dans le secteur de la défense, Parrot. Tous ces mini-drones là qui cartonnent, de plus en plus d'armées dans le monde et notamment en Europe veulent acheter des mini-drones professionnels Parrot. Le groupe annonce une hausse de chiffre d'affaires global de 50% ouais, d'un an sur l'autre et le titre gagne 12% en clôture. Dans cet univers-là, la défense qui a beaucoup monté mais qui désormais tente à plafonner, est-ce que vous trouvez encore des pépites, vous Fabrice ?
Ah oui, il y a beaucoup de choses parce qu'en fait, il y a eu toute la phase de hausse pendant la période où on a revu les budgets à la hausse. Et depuis quelques mois, vous avez une consolidation qui est assez marquée du secteur, un peu surprenante parce que il n'y a pas eu de révision à la baisse des perspectives. Vous avez plutôt une belle visibilité sur ce segment-là. Je pense qu'il y a aussi une réorientation, c'est-à-dire que les gens, avec la guerre en Iran, se disent bah, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de canons et de chars, ou est-ce qu'on n'a pas plutôt besoin, comme vous le disiez, des drones, des drones sous-marins comme la société Exail, d'informatique. Nous on aime beaucoup la société Mildef. Donc on est bien plutôt des sociétés de taille moyenne qui se payent pas cher, qui font des croissances colossales. Mildef, ça fait 100% de croissance du carnet de commandes à la dernière publication.
On connaît pas forcément très bien Mildef.
Oui, c'est une société suédoise. Donc en fait, il y a beaucoup de capitalisation boursière de taille moyenne qui sont très attrayantes par elles-mêmes, elles font des croissances très fortes, et en plus, on sait que les très gros vont probablement être des consolidateurs. Rheinmetall a comme objectif de faire 50 milliards de ventes en 2030, mais 5 milliards de ces 50 milliards viendraient d'acquisition. Donc il y a un peu les deux attraits pour les sociétés de taille moyenne, et ça permet de jouer plus sur des segments en forte croissance. Je citais Exail, par exemple, sur des sociétés françaises, qui est très intéressante, ou Exocène, ce genre de société.
Fabrice Thévenot avec nous pour Eleva Capital, et Damien, pourquoi vous souriez Damien?
Oui, parce que vous avez réussi cette fois-ci.
Oui, j'ai une mémoire court terme très bonne. Damien Charlet aussi, nous accompagnait. Damien pour Mandarine Gestion. Merci messieurs, bonne soirée.
Bonne soirée.
Bon retour. Le CAC 40 termine à moins 0,4% ce soir. Dans un instant, vous retrouvez Guy Chevrillon, le 18-19, et Antoine, bien sûr, Antoine Larigaudré à ses côtés pour débriefer cette séance. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.